et psycho. Votre dose mensuelle de psychologie. Tous les troisièmes mercredis du mois, de 19h à 20h. Présenté par Epsilon sur Radio U.
Imaginez-vous être dans la rue et être témoin d'une personne victime d'un malaise. Vous prendriez sûrement l'initiative, on l'espère, d'aller l'aider et de savoir quels gestes effectuer. Vous avez peut-être même déjà été formé au premier secours physique. Maintenant, imaginez être en présence d'un ami, d'une collègue, d'une personne de votre entourage, ou même d'un inconnu qui s'écroule psychiquement. Ou alors vous remarquez qu'une personne n'est plus la même, s'isole ou reste souvent seule. Sauriez-vous comment réagir ? On peut toutes et tous s'écrouler, que ce soit de manière physique ou émotionnelle, et dans tous les cas, nous avons besoin d'aide, qu'elle soit professionnelle ou non. La souffrance psychique peut être visible, parfois non, elle est plus subtile, mais elle est tout aussi importante que la souffrance physique. Les mentalités évoluent, mais dans un monde anxiogène et où la santé mentale est encore parfois un sujet tabou et trop méconnu, se sensibiliser à la question du bien-être psychologique est essentiel, et pour ça, des solutions existent. Moins connue que la formation au premier secours physique, la formation au premier secours en santé mentale peut permettre de reconnaître les signes de détresse psychologique et d'intervenir de manière appropriée pour aider une personne en souffrance. Pour parler de cette formation, de son rôle et de son importance, nous recevons Christelle Vacher, formatrice et instructrice au premier secours en santé mentale, qui a accepté de participer à notre émission. Pour commencer, voulez-vous dire quelques mots sur l'association qui propose la formation Premier Secours en Santé Mentale ?
Bonjour.
Bonjour.
Du coup, ce que je peux dire, c'est que c'est une association qui a été adaptée au contexte français, qui a adapté au contexte français le programme de formation Mental Health First Aid, donc Premier Secours en Santé Mentale, dont elle détient une licence pour l'ensemble du territoire français. C'est une formation qui regroupe trois intervenants phares, Santé Mentale France, qui est donc assez connue, l'UNAFAM, l'Association de Familles d'Usagers, et l'INFIP, qui est un centre de formation en santé mentale basé sur Lyon. Et l'objectif, c'est de s'attacher à lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques, puisque c'est un des freins à l'accès aux soins, au rétablissement et à l'inclusion sociale et professionnelle des personnes concernées.
Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette formation, vous raconter un peu son histoire ?
Ah oui, volontiers. En fait, donc c'est une formation qui a vu le jour en Australie dans les années 2000. Il y a une éducatrice à la santé qui était concernée par des troubles psychiques sévères et l'impact dans son travail, hein, puisqu'elle était un peu mise, elle a vécu la stigmatisation, et aidée de son mari, qui est professeur en médecine, Tony Jorm, et du coup qu'on a créé cette formation un petit peu en s'appuyant sur le concept des premiers secours physiques. Au départ, c'était une formation qui était sur plusieurs heures, puis finalement, elle s'est étendue jusqu'à environ 2 jours de formation.
Ok. Et quels sont ses objectifs à cette formation ?
Alors, comme je le disais, hein, c'est vraiment lutter contre la stigmatisation, mais déjà, dans un premier temps, de permettre d'accéder à des connaissances validées scientifiquement, puisque c'est l'ensemble des connaissances qui sont présentées dans la formation ont été sélectionnées en fonction de leur niveau de preuve et de consensus international. Et du coup, l'idée, c'était de permettre finalement que les gens aient une meilleure connaissance des troubles psychiques, qui va permettre, comme je le disais, de lutter contre cette stigmatisation qui peut empêcher finalement aux personnes de trouver leur place dans notre société aujourd'hui.
Ouais, ok. Et pouvez-vous nous expliquer comment se déroule concrètement une formation ?
Alors, c'est une formation qui a une pédagogie assez dynamique. L'idée, c'est qu'effectivement, pendant 14 heures, donc plutôt 2 jours, il y aura une alternance de un petit peu de théorie, mais très basique, et puis de vidéos, témoignages, et puis d'exercices pratiques pour s'approprier une méthode qui s'appelle la méthode aérée et qui va permettre effectivement d'être un support quand on voudra au quotidien, dans notre vie, peu importe où on se trouve, apprendre à aider quelqu'un qui souffre de troubles psychiques.
Ok. Et alors cette formation, elle s'adresse à qui ? Est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde ou est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir secouriste en santé mentale ?
Je dirais qu'à part être majeur et pouvoir rester finalement pour une formation qui durera à peu près 14 heures, je dirais qu'il n'y a pas de prérequis. Tout citoyen est vraiment invité à faire cette formation s'il le souhaite, puisqu'on part déjà du principe que tout le monde a sûrement des compétences insoupçonnées qu'il peut mettre au service des autres. L'idée est en plus d'acquérir un langage commun et puis surtout d'acquérir certaines connaissances qui permettront justement d'agir au mieux. Donc finalement, toute personne motivée est la bienvenue.
Ok. Et comment est-ce qu'on y accède à cette formation alors ?
Alors en fait, la formation est disponible sur l'ensemble du territoire. Hein. Donc vous allez sur le site PSSM France et vous pouvez voir effectivement les sessions qui sont ouvertes et disponibles. C'est des sessions en général qui regroupent un maximum de 16 personnes. Et effectivement, on a la possibilité de s'y inscrire. Alors des fois, ça peut aussi se dérouler au sein des universités dans certains cas. Voilà, c'est vraiment disponible sur l'ensemble du territoire.
Ok. Et à quel contexte et au milieu cette formation peut-elle s'appliquer ?
Alors en fait, il y a deux programmes distincts. Il y a ce qu'on appelle la formation standard, qui est ouverte vraiment à la population générale, hein, dans son ensemble. Et puis il y a un module qu'on appelle module jeune, hein, qui est plus à destination des personnes majeures qui vivent ou s'intéressent aux problématiques autour des jeunes. Voilà, je dirais que, mais aussi nous, l'idée est de vraiment montrer, hein, étant donné qu'une personne sur cinq sera concernée au cours de sa vie, que j'ai envie de dire, ça peut se déployer dans n'importe quel domaine, finalement, pas spécifiquement qu'un domaine précis.
Oui. Et être secouriste, on le rappelle, ce n'est pas être psychologue ou thérapeute. Donc quel est le rôle et surtout, quel est le rôle d'un secouriste, mais surtout quelles sont ses limites ?
Alors c'est important, hein, effectivement, de le redire, on ne forme pas des professionnels de santé. D'ailleurs, la formation n'est pas à destination des professionnels de santé, même s'il y en a beaucoup qui ont été curieux et qui se sont formés, et c'est formidable. Mais plus dans une dynamique d'acquérir un langage commun et finalement de parler un peu tous la même langue et de savoir réajuster, hein, notre langage quand des fois il est peut-être biaisé suivant là où on exerce. Effectivement, je dirais que les limites du secouriste, l'objectif du secouriste, on va plutôt partir de ça, c'est d'apprendre à aider et plutôt d'essayer de rappeler à la personne que là, il y a peut-être un pas de franchi et que franchement, recevoir de l'aide peut faire grandement la différence et pouvoir l'aiguiller vers des professionnels compétents qui pourront être plus à même de la soutenir. Donc, je dirais que le secouriste est vraiment l'intermédiaire des fois la personne qui va permettre d'accéder à du soin. Et puis, dans certains cas, peut-être celui qui va... finalement accompagner la personne jusqu'à cette démarche-là. Mais à aucun moment, on ne se substitue au professionnel du soin, puisque effectivement, vraiment, notre maître mot, c'est apprendre à aider.
Oui. Donc, dans certains cas, il est préférable que le secouriste oriente la personne vers un professionnel.
Oui, souvent, ce sera un moment, elle en parlera finalement. Dans certains cas, il n'y aura pas forcément nécessité, puisque la personne, ne serait-ce qu'en échangeant avec le secouriste, va juste mettre en mots plus clairement ce qui se passe pour elle et mobiliser par elle-même ses ressources, hein, en interne. Mais dans certains cas, effectivement, elle est peut-être un peu perdue parmi tous les professionnels qu'elle pourrait consulter. Elle a peut-être aussi des représentations qui l'empêchent d'aller consulter. Et le secouriste sera plus là pour finalement lui transmettre des informations fiables et surtout lui rappeler qu'une personne sur 5 va être concernée au cours de sa vie. Donc finalement, que ce qu'elle traverse est loin d'être un cas isolé.
Ok. Alors maintenant, on va parler des thèmes qui sont abordés pendant la formation. Quels peuvent être ces thèmes?
Alors, on a un petit peu balayé l'ensemble des principaux troubles. Donc, une nouvelle fois, l'idée n'étant pas d'apprendre à poser un diagnostic, on en est bien incapable, mais c'est plutôt de les répertorier pour avoir l'esprit plus clair, finalement, et mieux comprendre de quoi on parle. Donc, on aborde la notion de trouble dépressif, et à chaque fois, on s'intéressera à la notion de crise et de non-crise autour du trouble dépressif. Ensuite, au trouble anxieux, et une nouvelle fois, quand il s'agit de la crise autour du trouble anxieux, comme l'attaque de panique ou la non-crise, mes souffrances quand même, les troubles psychotiques, situation de crise et de non-crise, autour de cette thématique-là, et puis les troubles liés à l'utilisation de substances, quand il y a crise et quand il n'y a pas crise. Et à chaque fois, quand on aura balayé l'ensemble de ces troubles, de ces thématiques-là, on s'intéressera à la notion, comme je le disais, de situation où l'intensité est suffisamment sévère pour que là, il y ait nécessité d'assister rapidement. Et la situation, il n'y a pas besoin d'intervenir dans l'urgence, mais d'intervenir quand même.
D'accord. Merci pour cette première partie. Maintenant, on va faire une petite pause musicale. Vous écoutez Epsycho, l'émission qui parle de psychologie sur le 101.1 FM. Et c'est l'heure d'une pause musicale avec Castle on the Hill d'Ed Sheeran.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes and One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people race me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way.
D'écouter Castle on the Hill d'Ed Sheeran sur le 101.fm. Christelle, pourquoi avoir choisi cette chanson ?
Alors, c'est une chanson qui parle de quelqu'un, en l'occurrence Ed Sheeran, dont je ne suis pas prédestinée à être fan hein, à la base, mais qui parle de la nostalgie d'un endroit qu'il a quitté, en l'occurrence pour sa carrière. Donc, il est plus parti dans une autre ville d'Angleterre. Et effectivement, il dit plusieurs fois dans la chanson « I can't wait to go home ». Et finalement, ça me fait penser à deux choses. Moi, c'était une période où effectivement, il y avait des choses que j'avais quittées. Et donc, le sentiment de plus toujours être chez moi. Et donc, avec tout ce que ça implique d'agréable, mais aussi de désagréable. Et puis, je trouve qu'autour de la question de la santé mentale, il y a des fois le besoin aussi de retourner en soi. Et donc to go home, et vraiment de savoir profondément ce qui nous anime et ce qui nous habite. Donc je trouvais que c'était une bonne façon d'illustrer le sujet dont on est en train de parler actuellement.
Ouais, merci pour ces explications. Je vous rappelle qu'on parle de la formation en premier secours en santé mentale, et après avoir parlé de l'association, de la formation, on va s'intéresser maintenant à l'application de cette formation dans la vie de tous les jours, mais également à ce qu'on peut faire quand on n'est pas formé. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Vacher, qui a gentiment accepté de venir répondre à nos questions. Alors avant de savoir comment agir, on peut parler des signes qui peuvent alerter sur l'état d'une personne. Est-ce que la formation nous apprend à reconnaître quand quelqu'un va mal ? Quels peuvent être les signaux d'alerte ?
Alors oui, je dirais qu'elle est très pratico-pratique. Comme je disais, elle est assez dynamique, hein, donc il y a pas mal d'exercices pratiques. Et effectivement, l'idée, c'est d'apprendre à repérer ces signes. Mais c'est surtout aussi d'être attentif au fait de, pour autant, la personne peut aller moins bien, mais c'est d'essayer de repérer ce que ça va engager dans sa vie. Et donc, en l'occurrence, on aura un peu trois critères hein, qui vont être vraiment les éléments auxquels on va vraiment prêter notre attention. Durée, intensité et impact. En fait, à partir du moment où ça commence à durer dans le temps, à impacter la vie de la personne, bah, elle a beau essayer de nous dire ou elle a beau essayer de lutter elle-même avec ça, bah, là, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Donc, il s'agit en rien de commencer à aller aérer, puisque c'est notre outil, les personnes, dès qu'une personne ne va pas bien, mais c'est plutôt à partir du moment où ça s'inscrit dans le temps que ça l'impacte, en l'empêchant de faire les choses qui comptent pour elle. Bref, que ça commence à la faire souffrir. Que là, on va peut-être pouvoir intervenir.
D'accord. Qui sont les formateurs et les formatrices ?
Alors, globalement, pour être formateur, je dirais qu'il faut être majeur, avoir eu la formation de secouriste, d'avoir envie de donner une formation qui est quand même, j'ai envie de dire, comme on a une licence, il y a effectivement un cadre à respecter, donc elle est assez cadrée. Mais à partir du moment où on a l'intérêt, quand même un goût pour parler de ce sujet-là, et pas avoir réponse à tout pour autant, hein, et ben je pense que n'importe qui peut devenir formateur. Donc après la formation de secouriste, il y a une formation de 5 jours. Où on va essayer de s'approprier cet outil, hein, qui est donc la classe forte du formateur, et qui permet de découvrir justement le pourquoi cette formation est un petit peu établie de cette façon-là. et surtout de s'approprier les outils et pouvoir s'entraîner sur une partie du programme. Et puis, hop, c'est parti. On peut devenir formateur à partir du moment où on a eu cette formation encadrée par donc deux instructeurs. Voilà.
Ok. Qu'on soit formé ou non, quel conseil avez-vous à nous donner pour savoir comment réagir face à une personne en situation de détresse psychique? Et surtout, quel est le premier pas à faire pour aborder quelqu'un qui va mal?
Alors moi, déjà, je dirais faire preuve d'humilité et se donner du temps. Le temps ne veut pas forcément dire 3 mois, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment prendre le temps de revenir en soi, voir ce que ça nous fait, en observant l'autre et en étant attentif finalement à lui ouvrir un espace de présence, que la personne puisse sentir que c'est possible qu'elle puisse être comme ça et que ça ne vient pas finalement chez nous générer plus de du jugement. Voilà. Donc je dirais que c'est prendre le temps de l'écouter vraiment et d'être présent pour accueillir comment elle vit les choses. Et à partir de là, déjà, je pense que reconnaître le fait que on a besoin d'aide, mais que la personne, du coup, n'est plus toute seule, hein, parce qu'on peut être ensemble, ça peut être pas mal. À partir du moment où on accepte de reconnaître qu'on n'aura pas toutes les réponses ni toutes les solutions, mais que par contre, on peut être cette présence attentive, déjà, ça peut faire une différence. Et puis après, effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle les carnets du secouriste qui sont disponibles sur notre plateforme Premier Secours en Santé Mentale France. Et on n'a pas besoin d'avoir fait la formation, hein. Il y a un espace ressources. Et vous pouvez trouver ce qu'on appelle donc les carnets du secouriste en santé mentale. Et ça aussi, ça peut être un petit peu un support. Et donc, effectivement, c'est un ensemble de conduites à tenir, d'idées qui peuvent nous aiguiller si on a envie d'en savoir plus, sans pour autant être formé. Mais voilà.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette formation, elle est utile également pour notre propre santé mentale?
Ah oui, oui, c'est important. Alors, globalement, moi, quand je l'ai découverte, c'était en Angleterre. Et au départ, je me disais, ça va, le contenu, je connais un peu. Mais en fait, ça nous invite vraiment à prendre une petite distance sur comment nous, on est aussi. Et du coup, comment nous, on fonctionne avec notre propre santé mentale et le regard qu'on a dessus. Hein. Donc je dirais, oui, on essaye un petit peu d'amener le secouriste à se rappeler l'importance de prendre soin de lui. Alors évidemment, on n'a que 14 heures, donc on ne peut pas faire autant de choses qu'on voudrait, mais en tout cas, c'est plein de petites graines qu'on sème et qu'on invite vraiment à toute personne citoyenne à prendre conscience qu'elle a un petit rôle à jouer, même si il ne faut pas forcément être professionnel pour être aidant à un moment. Et pouvoir poser aussi des limites en donnant le relais à des professionnels, ça peut faire grandement la différence. Et puis, il y a un maître mot, ne pas attendre d'aller mal pour aller bien.
Oui, merci. Alors, selon vous, quels sont les autres moyens de se sensibiliser davantage à la santé mentale, notamment quand on n'y connaît pas grand-chose?
Ah, alors déjà, c'est, comme je disais, un premier pas pourrait être déjà de s'entourer de ressources qui sont mises en place par des gens qui sont plutôt experts. Alors, moi je sais comme ressource qu'on cite souvent, c'est le Psychom, donc qui est un site d'information, hein, où on peut retrouver pas mal de choses. Après, effectivement, de pouvoir aussi... j'ai envie de dire, ne pas hésiter à lire, à regarder un petit peu ce qui se développe. Mais il y a suffisamment d'outils disponibles aujourd'hui pour s'informer. Le tout, c'est que ce soit issu de, j'ai envie de dire, d'experts, de gens qui ont quand même la connaissance et que ce soit validé scientifiquement. Ça peut être un outil. Donc peut-être déjà s'assurer de nos sources. Donc je citais le Psychom, on a les carnets du secouriste en santé mentale. Ça peut être déjà un bon début, puis de fil en aiguille, des choses peuvent venir. Mais évidemment, se former, ça sera encore mieux, c'est super.
Ouais. Ok, eh bien, merci pour toutes ces réponses. Avant de clôturer l'émission, souhaitez-vous ajouter quelque chose?
Je vous souhaite de prendre soin de vous dans cette période pas toujours évidente. Je crois que ces écoutes sont pas mal destinées à devenir peut-être des professionnels du son. Et donc, j'ai envie de dire encore plus double dose de prendre soin de vous. Voilà.
Merci beaucoup.
Bien, au revoir.
Merci Christelle Vacher d'avoir accepté de participer à notre émission.
Avec plaisir.
Merci à la technique de Radio U et merci à toutes celles et ceux qui s'impliquent dans ce projet et apportent leur aide. Et enfin, merci à vous les auditeurs et les auditrices. On se donne rendez-vous le mois prochain sur Radio U, le 101.fm. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission en version podcast sur le site de Radio U. À bientôt.